Bonjour tout le monde, bienvenue à cette toute nouvelle capsule express de la critique de Yugi. Je suis Yugi, votre animateur, votre critique personnalisée, toujours aussi chanceux. Aujourd'hui, petite capsule express sur un film particulièrement gros qui est sorti il y a deux semaines de cela, sorti le 4 mars 2022. Je vous parle aujourd'hui du film de Batman. Et le « de » est important, c'est le Batman. Ça fait une petite variance avec les autres films, particulièrement le film du nom de Batman, sorti dans les années 80 avec Michael Keaton, donc afin de différencier les deux. Celui-ci s'appelle « The Batman ». C'est uniquement la seule raison pour laquelle ils ont mis un « de » devant le « bat ». Film de... quand même assez long. Hein? C'est un film de 2h56 minutes. C'est un bon 3 heures. Donc, conseil d'amis, n'absorbez pas trop de liquide au début du film et pendant le film. Parce que, croyez-moi, 3 heures, c'est long. Et quand on commence à devoir se retenir, ça devient long. Et on a hâte que le film se termine à cause de ça. Donc, conseil d'amis, ne consommez pas trop de liquide au début et pendant le film. Allez-y avec modération. Vous allez pouvoir beaucoup mieux apprécier le film. Film écrit et réalisé par Matt Reeves. Ceux qui ne connaissent pas Matt Reeves, c'est lui qui a réalisé et produit les films de La Planète des Singes, les remakes de La Planète des Singes, le War, Planet of the Apes, War for the Planet of the Apes, Dawn for the Planet of the Apes, quelque chose comme ça, je me suis tout à fait l'ordre. Mais le remake là, des Planètes des Singes chez Matt Reeves qui les a fait, c'est aussi lui qui s'est occupé là, de la saga de Cloverfield. Si vous avez apprécié les films de Cloverfield, eh bien c'est Matt Reeves qui les a fait également. Donc c'est lui qui a écrit et réalisé ce film. Quand même beaucoup d'acteurs qui jouent dans Batman, comme dans n'importe quel film de super-héros, évidemment, il y a quand même un très bon casting dans le rôle principal de Bruce Wayne alias Batman. Oui, oui, Bruce Wayne est Batman, pour ceux qui ne le savaient pas encore. Joué par Robert Pattinson, très très connu pour son fabuleux rôle de l'excellent film Twilight. Au cas où vous ne l'aviez pas remarqué, j'ai été très sarcastique ici. Là. Je n'ai vraiment pas aimé Twilight, et pourtant, je l'admets, j'ai lu les livres, j'ai lu tous les livres de la saga Twilight, et mon Dieu que les livres sont tellement meilleurs que les films. Le film a viré vraiment beaucoup, beaucoup à l'eau de rose, mais bon, on n'est pas ici pour parler de Twilight, on est ici pour parler de Batman. Donc, Robert Pattinson, c'est lui qui joue le rôle de Bruce Wayne, on l'a vu également dans le film Tenet tout récemment, et dans le rôle... je me souviens plus du personnage qu'il joue, mais il joue dans Harry Potter et la Coupe de Feu. Et je crois qu'on le voit aussi peut-être dans un autre précédent, celui-ci. Mais bref, donc Robert Pattinson dans le rôle de Bruce Wayne, alias Batman. Est-ce que Robert joue un bon Batman? Oui, absolument. Il fait un très bon Batman. J'ai été très surpris, agréablement surpris, de la performance de M. Pattinson. J'avais vraiment très très peur quand ils ont annoncé que c'était lui, parce que veut pas, on associe l'acteur au film de Twilight, donc au vampire amoureux de ces dames. Bon, ok, c'était un peu cucu. Donc on a beaucoup associé ça avec Batman. Donc on s'est tous dit, est-ce vraiment un bon choix? C'est un très bon choix pour Batman. Il fait un très très bon Batman. Il fait un mauvais Bruce Wayne. Malheureusement, il ne fait vraiment pas un bon Bruce Wayne. Bruce Wayne a l'air d'un jeune immo délavé, pas propre. C'est pas Bruce Wayne. Bruce Wayne reste quand même quelqu'un de riche, un philanthrope, quelqu'un d'apprécié par la communauté, du moins en général. Il n'est pas dépeint de cette façon dans le film. Il est vraiment dépeint comme le pauvre jeune riche, mon Dieu, qui a perdu ses parents et qui est donc bien triste. C'était un peu décevant. Sa coupe emo est vraiment très gossante. Je sais pas si le choix vient de Matt Reeves ou si ça vient des designers, costumières, maquilleurs et tout et tout. C'est pas le choix que moi j'aurais pris, mais bon, chacun a droit à son choix créatif, j'imagine. Mais bref, voilà, Robert Pattinson, pas un bon Bruce Wayne, mais un excellent Batman. Il a une très bonne carrure, il porte bien le masque. On peut facilement voir les émotions de Batman à travers son masque, seulement avec la bouche et les yeux, rien d'autre. On est quand même de voir soit la frustration, la colère ou la tristesse que le personnage peut arborer. Il le représente très très bien. Donc très bon travail de Pattinson pour le personnage de Batman. On peut pas en dire pour sa performance en tant que Bruce Wayne. Autre acteur, on a Zoé Kravitz. Ceux qui ne connaissent pas Zoé Kravitz, ben c'est la fille de Lenny Kravitz. Et oui, qui l'eût cru. Donc la fille de Lenny Kravitz, Zoé Kravitz, qui joue le rôle de Catwoman. Zoe Kravitz, on l'a vu dans Mad Max, on l'a vu dans Divergent, on l'a vu dans X-Men First Class et dans la série Big Little Lies. Très très bonne actrice, elle fait un bon travail pour représenter Selina Kyle alias Catwoman. Et elle représente bien Catwoman, vraiment plus la femme chat, un peu plus badass, un petit peu plus je frappe en premier et je pose des questions après. Donc vraiment. Une très bonne représentation du personnage de Selina Kyle. Quand j'ai vu le film, après le film, je me suis dit, mais elle sert à rien, Catwoman, dans ce film-là, autre qu'apporter la petite touche de romance entre elle et le personnage de Batman. Mais en y réfléchissant un peu plus, le personnage de Selina Kyle apporte quand même beaucoup au film. C'est par ce personnage que l'intrigue se développe un peu plus dans le sens que, pour résumer vite vite le film, je ne l'ai pas fait encore, c'est vrai, on est 2 ans dans l'histoire de Batman. Donc ça fait 2 ans que Bruce Wayne est Batman. Il commence vraiment plus à être connu à travers le public. Il commence vraiment plus à être détesté à travers le crime organisé, à travers les criminels, à travers les méchants. Il commence vraiment plus à avoir peur du personnage de Batman. La police ne le truste toujours pas, donc toujours aucune confiance au niveau de la police envers Batman, excepté avec Jim Gordon, où sa relation s'est déjà beaucoup avancée dans la relation entre Batman et Jim Gordon. On voit qu'il y a quand même une certaine tension, on voit qu'il y a quand même une certaine confiance qui est là, mais pas à 100%. Mais la relation est déjà entamée. Et dans l'histoire, on a premièrement un meurtre qui est commis et Batman va investiguer évidemment avec la police sur ce meurtre-là. Il y en a d'autres. On découvre qui est le meurtrier de ces victimes-là. C'est The Riddler, le Sphinx pour ceux qui l'écoutent en français. Mais un tout nouveau Riddler, vraiment réimaginé au complet. Excellent personnage du Riddler, je vais en revenir plus tard quand je vais parler de l'acteur. Mais bref, voilà, donc c'est Batman et la police qui essaient de trouver justement qui est le coupable, pourquoi il fait ça, qui sera la prochaine victime et comment évidemment arrêter tout ça. Donc à travers toute cette intrigue-là, tous ces meurtres-là, veux pas, éventuellement, il y a Batman et Jim Gordon arrivent à un point où ils ne savent pas trop où s'en aller dans l'investigation. Et c'est grâce à Selina Kyle et à ses connexions, si je peux dire, que là où l'enquête prend un autre détour et là on avance vers quelque chose. Donc oui, je pensais que le personnage de Catwoman était inutile dans ce film, autre que pour apporter la touche de romance. Mais finalement, non, le personnage est très 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 important au film. Je pense que si Catwoman n'avait pas été là, le film aurait pris un tournant complètement différent, pour le mieux ou pour le pire, ça, on ne pourra jamais le savoir, évidemment. Mais Zoé Kravitz interprète très très bien le rôle de Catwoman. La chimie entre Pattinson et Kravitz est palpable. On le sent, on le voit que ils ont déjà joué ensemble, ils se connaissent et ils ont une facilité d'approche au niveau de leur personnage. Tu vois vraiment que Batman a le béguin facile pour Catwoman et vice-versa. Je dirais peut-être que j'étais un petit peu déçu par comment ça se termine. Je trouve que c'était prendre la porte facile pour la fin de cette intrigue-là. Mais bon, on verra. Il y a une série télé qui s'en vient sur HBO Max. Et il y a probablement un deuxième film également qui va suivre. Donc, est-ce que la relation va se suivre? Peut-être faudra voir rendu là. Mais Zoé Kravitz, excellente performance pour le rôle de Catwoman. On a Jeffrey Wright qui joue le rôle de Jim Gordon. Un excellent Jim Gordon. Encore une fois, une très bonne prestation de Jeffrey Wright. Jeffrey Wright, on l'a vu dans Hunger Games, on l'a vu dans Shaft, mon Dieu, on recule loin Shaft, et on l'a surtout vu également dans la série Westworld, qui est une excellente série. Également, si vous ne l'avez pas encore commencé, go for it. Donc, très bonne interprétation, encore une fois, de Jim Gordon. Il joue bien. Il joue vraiment bien un Jim Gordon qui est déjà, il est déjà rendu capitaine, donc ce n'est plus un lieutenant, il est rendu capitaine. Il s'en vient tranquillement vers son poste de commissaire, comme on le connaît dans les comics. Et on voit vraiment, là, encore une fois, sa relation avec Batman. Très bonne interprétation. On le sent qu'ils sont beaucoup plus confortables l'un envers l'autre, mais qu'il y a quand même une certaine... une mistrust, si je peux m'exprimer en anglais. Donc oui, ils se font confiance, mais ils restent quand même sur leur garde l'un et l'autre. Et ça paraît dans leur jeu. Donc très bonne prestation de Jeffrey Wright. Colin Farrell, qui ne connaît pas Colin Farrell, sauf si tu vis dans un igloo dans le nord, et encore, ils ont la télé, pas mal ceux qui savent c'est qui. Colin Farrell dans le rôle du pingouin, alias, en fait non, c'est Oswald Cobblepot, alias le pingouin. Colin Farrell, on l'a vu dans le live-action remake du film Dumbo, on l'a vu dans Harry Potter and Fantastic Beasts, j'ai pas le nom précis, mais c'est pas grave, vous savez de quoi je parle. Dans le remake de Total Recall, on l'a vu également dans Minority Report avec Tom Cruise. Donc Colin Farrell qui fait une bonne interprétation du pingouin, mais je pense que le maquillage fait le personnage, beaucoup plus que l'acteur. Colin Farrell est méconnaissable en pingouin. Si vous ne saviez pas que c'était Colin Farrell qui faisait le personnage, vous n'allez pas reconnaître l'acteur. Le maquillage fait vraiment le personnage. Est-ce qu'il fait une bonne interprétation du pingouin? Je dirais que oui, mais le pingouin est vraiment un personnage très secondaire dans ce film. On le voit à quelques occasions, il y a une excellente... course en voiture avec le pingouin, Batman qui court après le pingouin en voiture. Excellente scène d'action. L'une des meilleures scènes d'action, à mon avis, dans tout le film, c'est la course de voiture. Mais c'est les fois, justement, où on voit le pingouin. Donc, on le voit, mais tu sais, très en arrière-plan. Donc, difficile à dire si c'est vraiment une bonne interprétation du personnage parce qu'on n'est pas allé plus loin que ça. Donc, c'est pour ça que je dis que le maquillage fait vraiment le personnage du pingouin. On reconnaît le pingouin rapidement de par son nez très crochu, sa démarche boiteuse. Donc, on le reconnaît bien. Le Iceberg Lounge également, qui est son bar. Très bon clin d'œil aux comic books. Ça, j'ai bien aimé ça. J'ai bien apprécié ça. Autre acteur, on a Andy Serkis qui joue le rôle d'Alfred. Andy Serkis, on l'a vu dans Planète des Singes. C'est lui qui fait. Mon Dieu, c'est quoi son nom? Roméo? C'est-tu Roméo? En tout cas, bref, le singe principal dans la planète des singes, c'est Andy Serkis qui l'interprétait. C'est également lui qui fait Gollum dans la saga des Seigneurs des Anneaux. On l'a vu également dans Black Panther. C'est lui qui faisait Claw, le personnage de Claw, dans Black Panther et également dans Age of Ultron. Donc, Andy Serkis fait le personnage d'Alfred. Encore une fois, difficile à dire s'il fait une bonne interprétation. Je crois qu'il le joue bien pour le très peu de fois où on voit Alfred. Je pense que dans tout le film, on le voit peut-être 4 fois. C'est vraiment pas beaucoup. C'est vraiment pas de longue durée. Il est plus que secondaire. Il est quasiment tertiaire à l'histoire. Mais, somme toute, je reconnaissais quand même Alfred à travers son personnage. Évidemment, il faut connaître le personnage d'Alfred Pennyworth pour réussir à parler de cette façon-ci, mais je pense être un assez bon connaisseur de Batman pour dire que j'ai bien reconnu le personnage d'Alfred Pennyworth dans l'interprétation d'Andy Serkis. On a également John Turturro qui fait le rôle de Carmine Falcone. John Turturro qui a joué dans Transformers, c'est l'un des personnages qui est revenu quasiment dans tous les films. de Transformers. Il jouait au début là, un militaire justement qui gardait secret l'existence des Transformers. Puis au fil des films, il est devenu un petit peu crackpot là. Si vous avez vu les Transformers, vous savez de qui je parle, c'est John Turturro. On l'a vu également dans le film Oh Brother, Where Art Thou et dans la série Severance qui joue présentement sur Apple Plus, dont les critiques sont très très bonnes. Si vous avez Apple Plus et que vous avez la chance d'écouter Severance, go for it. Vous m'en redonnerez des nouvelles, il paraît que c'est vraiment très très bon. Mais Torturo joue justement dans cette série-là. Command Falcone, encore un personnage quand même plutôt secondaire, mais d'une très grande importance dans le film. J'en dirai pas plus, évidemment, mais pour ceux qui connaissent l'univers de Batman, vous savez très bien que Command Falcone, c'est le Godfather à Gotham. C'est le top chef du crime organisé. Donc, il joue dans le film et j'étais content de voir Carmen Falcone, même si une certaine relation avec un personnage que, ok, je peux comprendre pourquoi Matt Reeves a décidé d'apporter ça de cette façon-là, mais pour les grands amateurs de Batman, vous allez savoir, vous allez reconnaître, vous allez dire, ah, ok, oui, c'est beau, mais faut connaître vraiment bien les références pour comprendre pourquoi il est allé là. Je me souviens que Bedu, avec qui j'ai vu le film, quand la relation s'est présentée à l'affiche, il m'a comme regardé en disant « Ah ouais, c'est-tu vraiment ça? » Et moi, de faire un signe de la main, ouais, peut-être. Mais bref, okay, ça, c'est un petit point négatif que je pourrais peut-être apporter dans tout le film. Et ensuite, nous avons Paul Dano, qui joue le rôle du Riddler. Et oh my god, qui le joue tellement bien. Une toute nouvelle vision du personnage du Riddler. Oubliez le gars habillé en vert et hyper coloré avec des points d'interrogation partout. Non, non, non. Il est hyper noir. Il est très freaky. Paul Dano joue le rôle du psychopathe. Mais vraiment le psychopathe modèle. Tu sais, mais pas juste. On est habitué avec l'univers de Batman d'avoir des vilains plus grands que nature. Justement, le pingouin, le Joker. Mon Dieu, les noms m'échappent. Catwoman est quand même pingouin et plus grand que nature. Le Scarecrow est plus grand que nature. Bane est plus grand que nature. Killer Croc est plus grand que nature. On est habitué à ces gros vilains-là. Mais dans ce film-là, Riddler est vraiment juste un psychopathe qui fait peur. Et ses réactions sont tellement on point. Ils sont tellement bien joués. Je me fais juste me rappeler la scène où Batman est face à face avec Riddler. Et il essaie d'y extirper de l'information. Et Riddler capote complètement. Mais en bon psychopathe. Là, et il le joue super bien. À mon avis, là, on a déjà dit dans plusieurs épisodes d'avant qu'un bon film, un bon super-héros existe que par un bon vilain. Et The Riddler est un excellent vilain. Tant qu'à moi, on a souvent comparé le rôle de Heath Slater, je crois, Heath Ledger en Joker. Comme quoi c'était la performance de la décennie. Paul Dano en tant que Riddler, je serais prêt à dire que ça va être l'une des performances de la décennie parce qu'il le joue très très bien. Tant qu'à moi, n'importe quel autre vilain n'aurait pas fité dans le film de Batman. Un film... On est habitué avec les Batman avec des films très très explosifs. Beaucoup de combats, beaucoup d'explosions, beaucoup d'effets spéciaux, beaucoup de budget. Dans The Batman, on revient vraiment à la racine, à la source du personnage. Le Batman est un détective. C'est un détective hors pair, exceptionnel. C'est son pouvoir de super-héros. C'est son pouvoir de déduction. Il est un excellent détective. Et dans tous les films de Batman qu'on a vus jusqu'à ce jour, oui, ça a été présenté, mais pas plus qu'il faut. On présentait vraiment plus son côté épeurant. Tu sais, le Batman qui fait peur aux criminels, puis qui les tapoche, puis qui les amène en prison, puis qui les... Tu sais, on a vraiment plus resté sur ce... On a fixé là-dessus dans les films d'avant. Dans The Batman, on revient vraiment à la source du personnage. C'est vraiment un film de détective à la sauce de Batman. Un film très à la noire, si je peux dire. Souvenez-vous un petit peu les films des années, peut-être là, 50, les films de détective des années 50, où c'était très. On a un crime, on check les indices, on analyse les indices, on interroge des gens. Vraiment dans une ambiance morbide, une ambiance noire, carrément. Gotham fait un très bon background pour cette atmosphère-là. Même durant le jour, je pense qu'il ne fait pas soleil à Gotham. Donc, c'est vraiment une ambiance sombre, nocturne. Et c'est un film de détective. On voit vraiment là, Batman et les autres détectives analyser les indices et essayer de trouver pourquoi le criminel fait ça, qu'est-ce qu'il veut nous montrer, où ça s'en va, tout ça. Il y a vraiment une excellente intrigue dans toute l'histoire du film. Et l'intrigue se développe petit à petit. À chaque crime, il y a un nouvel élément de l'intrigue qui se rajoute. Et ça garde l'auditeur en haleine. Heureusement, parce que 3 heures, veux pas, c'est long. Si j'avais une chose vraiment négative à dire, c'est que 3 heures, justement, c'était peut-être un petit peu trop long. Tant qu'à moi, 2 heures et demie auraient été parfait. 3 heures, il y a des petites scènes là, qui ont fait que ça l'a rallongé un petit peu pour rien. Ça aurait pu être coupé. Mais bon, encore une fois, choix créatif, on peut pas vraiment parler en mal de ça. C'est une décision et on doit la respecter. Beaucoup de références à l'univers de Batman, beaucoup de petits easter eggs qu'on appelle. J'ai écouté récemment le comic de Long Halloween, qui est une BD très connue dans l'univers de Batman. Et il y a beaucoup d'éléments dans ce comic book-là qui ont été pris, je crois, pour faire le film de Batman. Tout le lien avec justement la mafia, Carmen Falcone, et le lien avec Catwoman et le lien avec tout plein d'autres personnages. Je pense que la source première pour The Batman a été l'histoire du Long Halloween. J'ai vu beaucoup vraiment de ressemblances entre les deux. Point positif, vraiment, la chimie entre les personnages et les acteurs. On embarque vraiment dans leur jeu. Il n'y a pas un moment où on dit non, ça j'y crois pas pantoute. Pourquoi il agit comme ça? Pourquoi c'est fait ça? Il n'y a pas de moment où tu dis ça justement. T'embarques vraiment dans le jeu avec les acteurs. Un gros combat. Tu sais, d'habitude, Batman se bat contre le criminel et c'est le criminel uniquement. C'est un one-on-one très souvent. Là, c'est vraiment un combat contre la corruption. La corruption en politique, la corruption dans la police, la corruption dans sa propre famille. Souvent, dans les films d'avant, on mentionne les parents de Bruce Wayne comme bon, deux parents riches qui se sont fait abattre dans une ruelle. Point final. Dans tous les films de Batman, ça a été un point final à ce niveau-là. Dans The Batman, on va vraiment beaucoup plus loin que ça. On apporte beaucoup plus d'historique au niveau de Thomas Wayne et de Martha Wayne. Historique qui est valable, qui est vrai, entre guillemets. On s'entend, c'est de la fiction, là. Mais pour les fans, pour les amateurs des comic books de Batman, vous allez reconnaître justement l'historique des parents de Bruce Wayne. Et on rentre plus là-dedans, justement. On amène vraiment plus un côté glauque à la famille des Wayne. Et c'est correct, c'est comme ça. Et il fallait que quelqu'un le fasse à un moment donné. Donc c'est vraiment un combat contre tout ça. Et le Riddler fait juste accentuer le tout. Un film très noir, un film de détective, mêlé avec évidemment de l'action, de très très bonnes scènes d'action avec une photographie fantastique. La scène de combat dans la discothèque est sublime avec les flashs de lumière un peu partout. Vers la fin de la scène de combat où on est complètement dans le noir, puis tout ce qu'on voit c'est quand les mitraillettes se mettent à marcher, puis que ça fait des flashs de lumière. C'est super bien fait, c'est super bien monté, c'est beau à voir visuellement. Une excellente musique, Michael Giacomo, ou en tout cas Michael quelque chose, c'est lui qui fait la musique. Une musique lourde, une musique sombre qui vient encore une fois accentuer chacune des scènes. Honnêtement, c'est un excellent film de Batman. Moi, ça m'a fait du bien de voir ce film-là. après les dernières itérations de Batman avec Ben Affleck. Je dis pas que Ben Affleck ne faisait pas un bon Batman, c'est juste que les films dans lesquels il a joué n'étaient pas des bons films, ce n'étaient pas des bons films de Batman. Même le dernier film de la trilogie de Christopher Nolan a été une déception tant qu'à moi pour les films de Batman. Donc de voir enfin une vision beaucoup plus fraîche du personnage où on revient vraiment à une racine, on revient à ses débuts beaucoup plus policière d'une certaine façon. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié ça. Les critiques pour ce film sur nos deux sites habituels, donc sur IMDb, c'est un 8,4 sur 10, qui est quand même très, très bon. Et sur Rotten Tomatoes, les critiques lui donnent un 85%, l'audience lui donne un 88%. Ma note à moi pour The Batman, je lui donne un 9 sur 10. Je donne pas plus haut parce que la longueur du film a fait que ça devient un petit peu trop lourd à écouter. Comme je disais, un 3 heures, c'est long. 2 heures et demie, tant qu'à moi, ça aurait été parfait. J'enlève des points également pour Catwoman où, même si je me suis rendu compte qu'elle était essentielle à l'histoire, disons que sa relation amoureuse avec Batman m'a gossé un petit peu. Je sais qu'elle existe, je sais que c'est ça leur relation, mais je pense que la relation amoureuse n'était pas nécessaire à apporter tout de suite. Il aurait pu nous teaser un peu là-dessus, puis ça aurait été assez. Je pense qu'on peut-être aller un petit peu trop loin, trop vite dans cette relation-là. Le personnage de Carmine Falcone, comme je dis, il y a un élément de relationnel avec un des personnages que ça m'a laissé un petit peu froid. Comme je disais, je comprends pourquoi il est allé là, mais je pense qu'il aurait pu approcher ça d'une autre façon. Tout ça pour dire 9 sur 10 pour The Batman. Je le recommande très, très, très fortement. Même si vous n'êtes pas un amateur de Batman, je pense que vous allez quand même aimer le film. C'est un bon film de détective. À la limite, c'est 3 heures, c'est trop long pour vous en salle. Attendez qu'il sorte en Blu-ray pour justement mettre sur pause à un moment donné et le recommencer une autre fois. C'est peut-être plus facile des fois. Mais je le recommande vraiment fortement The Batman en salle présentement. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour ce film. On est déjà rendu à quasiment 25 minutes, donc c'est quand même déjà beaucoup. J'en ai assez dit, j'ai plus de salive, on arrête ça là. N'oubliez pas toutefois d'aller cliquer sur le petit bouton abonner ou le petit bouton télécharger ou nous donner des étoiles, peu importe sur quelle plateforme que vous êtes. Cliquez sur une de ces trois affaires-là et vous nous faites grandement plaisir, vous nous aidez vraiment beaucoup. Et n'oubliez pas d'aller également sur notre page Facebook, La Critique de Yugi, pour toutes les nouvelles mises à jour, ce qui s'en vient, les updates. Et si vous êtes en mesure de nous faire des commentaires, gâtez-vous, on attend que ça. On veut savoir qu'est-ce que vous écoutez, sur quoi vous buguez présentement, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas. La plateforme est là pour ça, profitez-en. Là-dessus, je n'en dis pas plus, je vous souhaite une excellente journée ou fin de journée ou nuit, peu importe le moment de la journée où nous sommes. Prenez soin de vous. On se revoit le 1er avril avec un épisode régulier, spécial anime, anime mature même que je rajouterais, où ma co-animatrice Ali dit la crevette fera ses tout débuts avec moi. Et pour ceux qui se le demanderaient ou qui s'en souviennent peut-être, Ali est celle qui a fait le logo de l'émission La Critique de Yugi. Donc voilà, Ali sera ma co-animatrice pour l'émission du 1er avril sur les animes. Donc voilà, c'est tout. Merci, au revoir, portez-vous bien tout le monde, à la prochaine!